Bien, nous avons à peu près respecté l'horaire, donc nous allons pouvoir commencer la première partie du colloque après cette ouverture, les deux rives de la rue Saint-Jacques. C'est Mathieu Béra qui va venir me rejoindre et qui va prendre la parole. Vous pouvez installer votre système.
Donc avant de commencer, je voulais remercier Antoine Compagnon, Céline Surprenant et Pierre-Michel Menger de m'avoir invité à ce colloque qui s'avère passionnant, ainsi que Christophe Labaune des Archives du Collège de France, Stéphane Bacchiocchi avec lequel j'ai un petit peu préparé cette conférence, Pierre Lassave du Césor qui m'a donné des indications bibliographiques sur la science des religions, Yann Potin des Archives nationales qui m'a aidé à trouver une cote et Edith Piriot, même chose pour les Archives nationales. Alors, en introduction, je voulais d'abord expliquer un peu le titre de ma conférence. Donc, Durkheim et la sociologie par la petite porte de la Sorbonne. C'est en fait une allusion à une phrase relativement connue de Maurice Albax, dont on va parler, qui a écrit en 1938 que la sociologie avait été n'a pas été admise d'emblée à la Sorbonne, mais qu'elle s'y est introduite par la petite porte de la pédagogie. Puisqu'on va le voir, effectivement, Durkheim a été admis à la Sorbonne à un poste de science de l'éducation et non pas de sociologie à proprement parler. Donc, c'était une allusion à cette phrase que j'ai un petit peu transformée par rapport au Collège de France, qui serait la grande porte que Durkheim Durkheim a frappé plusieurs fois, sans succès. Et la petite porte serait celle de la Sorbonne, bon, qui n'est pas si petite que ça. Alors, en fait, il y a des éléments qui ont été dits par Pierre-Michel Menger et Antoine Compagnon, mais j'y reviendrai un peu plus précisément. Il s'avère que Durkheim a donc connu trois échecs et un succès. Donc un échec à la Sorbonne en 93, un échec au Collège de France en 97, dont il a été question, un succès à la Sorbonne en 1902, et un nouvel échec au Collège de France en 1904-1905. Alors, je reviendrai sur chacune de ces étapes, et le plan de mon intervention sera, je pense, relativement simple. Dans un premier temps, j'exposerai les faits, et dans un deuxième temps, j'essaierai de passer à l'analyse des faits en abordant la question disciplinaire, qui est le thème du colloque, mais dans un deuxième temps, en montrant qu'il y a d'autres dimensions à prendre en compte, bien sûr, la question des réseaux de personnes qui étaient dans les assemblées que j'ai pu reconstituer grâce aux archives, et donc des personnes qui ont voté pour ou contre Durkheim, contre au Collège de France et pour à la Sorbonne, et j'apporterai aussi des explications politiques et idéologiques liées à l'affaire Dreyfus, très importante pour cette période 1899 et 1904, où il y a encore de nombreuses traces, on va le voir. Enfin, c'est en tout cas l'hypothèse que je pense pouvoir démontrer. Avant d'entamer, je voulais juste faire un point sur les archives que j'ai consultées, et vous pouvez noter les cotes si ça vous intéresse. Donc au Collège de France, c'est très bien fait puisque sont mis en ligne les registres des assemblées. J'ai aussi consulté, ça c'est pas en ligne, l'intégralité des dossiers des membres de l'assemblée que j'ai reconstitué, donc une trentaine de personnes pour les situer, pour situer leur chaire, etc. Et puis aux archives nationales, j'ai retrouvé donc l'assemblée qui a, j'ai pu recomposer l'assemblée qui a élu Durkheim en 1902. J'ai consulté le fonds Alfred Rambaud, puisque c'était quand même une piste qui avait été proposée par Philippe Bénard en 1979, mais bon, j'ai rien trouvé de passionnant, malheureusement, et j'ai reconsulté le dossier personnel de Durkheim, qui apporte quelques indications intéressantes sur certains points. Bon, je ne vous parle pas des articles et des ouvrages que j'ai lus aussi, parce que là, j'y passerai une demi-heure, donc ça vaut pas le coup. Mais je pourrais aborder ces questions dans vos questions. Je pourrais aborder ces aspects dans vos questions. Alors donc les faits, dans une première partie, trois échecs et un succès, pour reprendre un peu le titre d'un film, une comédie que vous connaissez peut-être. C'est un petit clin d'œil. Alors D'abord, je vais commencer, je vais toujours faire comme ça, je vais avoir une méthode un peu comparative. Je commence par le Collège de France et puis je compare avec ce qui s'est passé à la Sorbonne. Donc en fait, au Collège de France, on peut dire que Durkheim a connu effectivement deux échecs et on pourrait ajouter sa non-candidature en 1899-1900, où il aurait pu finalement postuler à la chaire de philosophie moderne à laquelle Tarde a été élu. Alors, je vais revenir donc du coup un peu plus rapidement sur certains aspects qui ont été donnés par Pierre-Michel Menger. Sur la première tentative, effectivement, en 1897, il apprend par la lecture de l'officiel qu'il y a une chaire qui est créée au Collège de France. En fait, il s'avère que ça... On apprend dans une lettre à Mauss que c'est par Théodule Ribaud qu'il apprend la nouvelle. Théodule Ribaud, qui est donc à la chaire de psychologie expérimentale, et qui lui écrit pour lui dire qu'un groupe de politiciens, je le cite, veut créer au Collège de France une chaire de philosophie sociale pour isoler. Nous sommes désarmés, dit-il à son neveu Mauss. Enfin, il rapporte la parole de Ribaud. Cependant, donc, encouragé visiblement par Ribaud, il écrit aussitôt à Liard la lettre que vous avez pu lire, qui est donc sa candidature officielle. Mais il s'avère donc, je n'insiste pas, ça me permet de gagner du temps d'ailleurs, ça m'arrange, je n'insiste pas sur le fait que Isoulet est élu à sa place finalement sans que l'Assemblée puisse délibérer, hein, il n'y a aucune délibération dans les PV. Et c'est donc, comme le dit l'historien Christophe Charles, isolé cet obscur professeur de lycée qui est nommé à cette chaire de philosophie moderne, alors qu'il est l'auteur, on le verra dans la communication suivante, de sa thèse, en fait, d'une seule œuvre en 1895. Et il a donc bénéficié d'un réseau difficile à recomposer, que je n'ai pas réussi à recomposer en regardant le fond Alfred Rambaud. Donc il y a encore des pistes à creuser de ce côté-là. Quel était le réseau, finalement, d'Isoulet, le réseau politique? La seconde, alors, je vais parler un petit peu de la non-candidature de Durkheim. Peut-être que Massimo Borlandi en reparlera tout à l'heure, donc je ne vais pas trop m'étendre. Mais il faut savoir qu'effectivement, en 1899-1900, il y a une conjoncture assez étonnante. Il y a les deux chaires de philosophie qui, coup sur coup, sont libérées par un décès en juin 1999 de Nourrisson et par un décès en janvier 1900, au moment où on s'occupe de la première chaire, de l'évêque. Donc ça fait deux chaires libérées, les deux chaires de philosophie libérées. Conjoncture très favorable. Et alors, paradoxalement, Durkheim ne se présente pas. Alors, il y a par contre deux lettres que j'ai retrouvées qui sont publiées, hein, qui sont intéressantes. Une lettre à Mauss de novembre 1999, dans laquelle il dit « Je n'ai pas à me présenter à une chaire de philosophie, puisque effectivement la chaire, c'est philosophie moderne, et je ne vois aucun inconvénient à ce que Tarde soit nommé à ce titre. L'important est qu'il n'épouse pas la sociologie coram populo, c'est-à-dire publiquement, avec le Collège de France comme officier d'état civil, c'eût été un mauvais exemple. » Et puis dans une autre lettre à Xavier Léon, le directeur de la revue de Métaphysique et Morale, datée d'après l'élection du 7 février 1900, il écrit « Je vous remercie des sentiments que vous me renouvelez, je vous remercie des sentiments dont vous me renouvelez l'expression à l'occasion de l'élection de Tarde à la chaire de philosophie moderne. » Il dit « Je n'avais pas pensé que cette élection pouvait me concerner, n'étant point philosophe au sens professionnel du mot. » Alors c'est assez étonnant parce que on peut se dire oui mais Tarde n'est pas plus philosophe que lui. Tarde n'est pas agrégé de philosophie comme lui. Tarde n'a pas été professeur de philosophie au lycée et à la faculté comme lui. Tarde n'a pas écrit une thèse de lettres et de philosophie comme lui. Donc on peut vraiment s'étonner de cette non-candidature que d'ailleurs certaines correspondances le montrent. Durkheim regrette. On sent qu'il aurait pu avoir sa chance et il ne l'a pas tenté. Alors, la troisième tentative, qui a été aussi exposée par Pierre-Michel Menger et Antoine Compagnon, c'est celle qui est la plus sérieuse, d'une certaine manière, puisque Durkheim est arrivé à Paris en 1902. Il peut donc, cette fois-ci, il est en mesure de faire campagne, comme on dit, Et il n'est plus à Bordeaux, éloigné de, tous les membres de l'Assemblée des professeurs. Et il prépare son coup, d'une certaine manière, avec ses deux amis de Normale Sup, qui sont de la même promotion. Enfin, en tout cas, Jeannet est de sa promo, 79, et Bergson est de la promo précédente avec Jaurès, 78. Donc il les connaît tous très très bien. Et il se trouve qu'ils viennent de rentrer au collège l'un et l'autre. Donc là, je vais gagner du temps. Je ne vais pas vous redonner l'épisode. Juste montrer que cette fois-ci, il y a une véritable tentative de Durkheim. Il est soutenu une première fois par Jeannet en novembre 1904. Alors, ce qui n'a pas été dit, c'est que à cette assemblée, on négocie en quelque sorte la transformation d'une chaire. Est-ce qu'on transforme la chaire de philosophie en chaire de sociologie? On se voit pour. Est-ce qu'on la transforme en chaire de, j'ai un trou de mémoire, d'antiquité nationale? On se voit. Et est-ce qu'on la conserve, je crois, c'était la troisième possibilité, en chaire de philosophie? On se voit. Donc personne ne se départage, pas de majorité absolue. On reporte à une assemblée suivante, qui sera l'assemblée de janvier 1905. Du coup, la stratégie essaye de se remettre en place. Cette fois-ci, c'est Bergson qui prend la parole, avec cette phrase que vous aviez déjà citée tout à l'heure, où clairement il fait le portrait de Durkheim, puisqu'il cite l'année sociologique, là c'est totalement explicite. Et il est soutenu par une personne, donc Virouboff, le professeur de sciences, d'histoire des sciences, qui est un positiviste, qui a succédé à Laffitte et qui dit que c'est effectivement une très bonne idée. Bon, donc il y a trois personnes qui se déclarent pour Durkheim. Mais en fait, à cette séance, les choses sont un petit peu plus... enfin, ne se passent pas comme il l'avait prévu, puisqu'il se retrouve face à plusieurs professeurs qui propose la chaire d'Antiquité nationale à nouveau, comme il l'avait fait d'ailleurs en 97 et en 99. Donc Cagna, Boissier et Réville, je vous montrerai les noms sur une diapo suivante, et Bréal, donc ils sont des vieux professeurs du Collège de France et qui soutiennent une chaire d'Antiquité nationale, qui se sont visiblement mis d'accord avec les autres, sur les 11 autres, qui avait été non départagé en 1904. Et finalement, donc, la chaire d'Antiquité nationale l'emporte largement, effectivement, avec 19 voix contre 11 pour la sociologie, qui n'a pas progressé depuis 1904. Donc, cette fois-ci, c'est les Antiquités nationales qui passent et qui, donc, éliminent, d'une certaine manière, l'une des deux chaires de philosophie. Ce qui est aussi un gros coup, d'une certaine manière, puisque les historiens... contribue à faire disparaître l'une des deux chaires de philosophie. Ce que je voulais... j'ai oublié de vous la mettre. C'est donc le vote, les résultats du vote qui sont importants à connaître, puisque après, donc, ça m'a permis de connaître l'ensemble des membres de cette assemblée et d'essayer de deviner, vous allez voir, qui a voté pour qui. Ce qui n'est pas forcément évident, parce que ce sont des bulletins secrets, je pense. C'est ça, hein, des bulletins secrets. Donc, alors, je passe au deuxième épisode, la réussite, le succès de Durkheim à la Sorbonne, sachant que, bon, il faut se rappeler qu'il a déjà présenté une première fois sa candidature juste après la soutenance de sa thèse en 93 à une chaire d'économie sociale, et que son collègue bordelais et ancien doyen Alfred Espinasse, plus âgé que lui, de 15 ans, ou de 14 ans, a obtenu cette chaire. Donc il a échoué une première fois, il en garde une certaine amertume par rapport à Espinasse. Et il recandidate donc en 1902. Cette fois-ci, il est informé par Ferdinand Buisson de la possibilité de postuler à une chaire de sciences de l'éducation, sa chaire de sciences de l'éducation, pour une suppléance, puisque Ferdinand Buisson vient d'être... élu député. Buisson tient fermement à ce que ça soit Durkheim, ce qui est un avantage absolu, et on va voir que finalement Buisson va être un personnage clé qui va, d'une certaine manière, faire campagne pour Durkheim auprès de l'Assemblée qui le respecte. Et pendant l'assemblée, pendant cette assemblée très intéressante du 24 juin 1902, où Durkheim est élu à la Sorbonne après 15 ans à Bordeaux, Buisson dit, là c'est pour revenir sur le thème du colloque, la pédagogie n'est-elle pas une province de la sociologie? Donc là, il inclut la pédagogie, la science de l'éducation, dans quelque chose de plus grand qui serait la sociologie. Et explicitement, il dit que, il est d'accord pour faire rentrer un sociologue à la Sorbonne. C'est pour ça que la phrase de Bergson est un petit peu ambiguë en 1904 quand il dit la Sorbonne n'a pas accepté la sociologie. Elle l'a accepté à moitié. Pas encore totalement. Il faudra attendre 1913 pour qu'officiellement il y ait sur le titre de la chaire sciences de l'éducation et sociologie. Alors donc, une dernière chose sur cette candidature qui réussit. Il faut savoir que les candidats concurrents de Durkheim sont, donc j'ai indiqué les noms, Lefebvre, Malapert, Moxion, Payot et Pinloche, qui sont des agrégés de philosophie, quasiment tous, et qui sont aussi souvent des profs de pédagogie dans diverses universités de province, mais qui n'ont pas cette troisième casquette qui est la force de Durkheim, d'être en plus un sociologue. Voilà, et donc le vote, cette fois-ci, que j'ai aussi analysé, puisque j'ai pu retrouver, mais ça c'était déjà publié, j'ai retrouvé donc les membres de l'Assemblée qui ont voté pour Durkheim, 21 pour Durkheim et 8 pour son candidat le plus proche, pour son adversaire le plus proche, Malapert. Donc voilà pour les faits. Maintenant, je vais en passer à l'analyse des faits, autant que possible, expliquer les faits, alors en insistant dans un premier temps sur les rapports entre disciplines, puisque la question disciplinaire est très importante, et les configurations du Collège de France et de la Sorbonne sont très différentes. Alors au Collège de France, comme vous le savez, la configuration est faite de telle manière qu'il existe une assemblée des professeurs qui fait appel à des groupes de disciplines qui sont très éloignés, puisqu'on trouve des sciences dures, des mathématiques, de la physique, de la chimie. Dans l'Assemblée, par exemple, qui vote contre Durkheim, il y a Marcelin Berthelot, qui termine son règne au Collège de France. Et puis, vous avez beaucoup de langues et littératures, des langues rares, anciennes, beaucoup de philologie, on pourrait dire. Et puis, vous avez des sciences sociales, au sens vraiment large, c'est-à-dire de l'économie politique, de chaire. J'ai mis les deux philosophes, même celle de Janet en psycho, là-dedans. J'ai mis de la géographie et en poussant un peu, je suis arrivé à 8 en sciences sociales avec beaucoup de guillemets. Et c'est juste pour vous montrer que c'est une configuration assez particulière. Et il se trouve que finalement, Durkheim a très peu d'alliés en philosophie, puisqu'il n'y a que deux philosophes de formation. Il y a Bergson et il y a Janet qui est passé à la chaire de psychologie. Et il a face à lui beaucoup d'historiens, beaucoup de philologues, beaucoup de spécialistes des langues, quelques historiens aussi au sens large, c'est-à-dire des archéologues, des épigraphes. Et ce n'est pas du tout, j'y reviendrai dans le deuxième point, ce n'est pas du tout le réseau en fait de Durkheim. Il connaît finalement très peu de monde, et ceci s'ajoute au fait qu'il n'a pas pu faire campagne pendant toutes ces années bordelaises, et du fait de ses propres réseaux. Alors qu'en est-il aussi, j'ai regardé du côté des sciences religieuses, parce que comme Durkheim s'intéresse beaucoup aux sciences religieuses depuis 1996, c'est très important de savoir s'il a des alliés de ce côté-là. Je pensais, dans mon inconscient, qu'il y avait beaucoup de sciences religieuses au Collège de France. En fait, il n'y a qu'une chaire de sciences religieuses, qui est celle qui est occupée par Réville, et il se trouve que Réville vote contre, explicitement, Durkheim. Il prend position pendant l'Assemblée contre lui. Donc, il n'a même pas d'allié du côté de ceux qui s'intéressent explicitement à la religion et aux religions primitives. Et quant aux sciences dures, a-t-il des alliés du côté des sciences dures? On a vu que Virouboff, qui est un historien des sciences et aussi un inventeur, le soutient, mais il semble être bien seul, si on en croit les prises de position pendant l'Assemblée. Alors la configuration est très différente à la Sorbonne, puisque à la Sorbonne on est dans une faculté de lettres, et il a déjà beaucoup d'alliés philosophes, dont Ferdinand Buisson, qui a la chaire de sciences de l'éducation, mais qui est un agrégé de philosophie. Et on a, je vous donnerai les noms juste après, on a donc six philosophes qui sont tous en faveur de Durkheim et qui prennent position pendant l'Assemblée, notamment Boutroux, notamment Brochard et Espinasse, l'ancien concurrent et doyen de Durkheim. Ils sont tous favorables à la candidature de Durkheim. Ils ont visiblement avec eux quelques historiens et quelques représentants des lettres classiques c'est des jeux de réseau qui sont difficiles à démêler, mais qui sont donc favorables à la candidature de Durkheim et qui se soumettent un peu à l'autorité, on peut dire, de Buisson, qui cherche un suppléant pour sa chaire. Et alors donc, je l'ai déjà dit, mais je le répète, la chance de Durkheim, c'est d'avoir bénéficié de ce poste fléché, comme on dirait aujourd'hui, en sciences de l'éducation ou en pédagogie, qui est une science très républicaine et qui est soutenue par des républicains, et on va le voir, qui sont souvent des Dreyfusards. Donc, je le répète, hein, Durkheim a trois cordes à son arc. Il enseigne la science de l'éducation depuis 15 ans à Bordeaux. Il est philosophe et il est en plus chef d'école en sociologie. En 1902, il faut savoir que par exemple l'année sociologique, on est à son cinquième numéro annuel, donc il y a une grosse réputation, ce qui n'est pas le cas quand il postule en 1997. On l'a vu dans la lettre de Louis Liard, en 1997, le premier numéro de l'année sociologique n'est pas encore paru, hein, s'il paraît en mai 1998. Donc il n'a même pas ça à mettre dans son CV, pour parler avec des termes contemporains. Alors, deuxième aspect rapidement, c'est la question des réseaux. Donc là, j'ai reconstitué, comme je vous l'ai dit, l'ensemble des noms de l'Assemblée du Collège de France du 15 janvier 1905, qui est celle sur laquelle je me suis focalisé. Il se trouve que donc, Durkheim, non seulement ne connaît pas grand monde, mais en plus ne fait pas campagne. Et il le dit clairement à son neveu, dans une lettre de 99. Il lui dit, parce que son neveu est à Paris et lui est à Bordeaux, « Inutile de me tenir au courant de tous les potins du Collège de France. Dis-moi seulement ce que je ne dois pas ignorer, mais tiens-en toi là. Tu sais que je n'y peux rien, et quoique j'entende bien rester au-dessus de tout cela, il y a dans toutes ces manœuvres quelque chose d'un peu attristant. » Alors voilà, vous avez aussi la personnalité de Durkheim, j'y reviendrai en conclusion, qui fait qu'il ne se prête pas à des visites ou de manière très marginale, puisque en fait, on apprend aussi dans une lettre de 1904, il écrit à nouveau à son neveu, donc pendant qu'il est soutenu par Bergson et Janet, toi-même ne perds pas ton temps, cette affaire doit nous devenir étrangère maintenant. J'ai fait ce que j'ai pu. Sur la demande de Janet de Bergson, je suis allé voir ce matin le roi Beaulieu. Donc on sent que c'est un gros effort. Il craignait qu'il ne m'attaque. Rien à redouter. Il me connaît, il m'apprécie, il trouve le projet de transformation, sous-entendu de la chaire, intéressant. J'ai tenu à ne rien négliger, mais il n'y a pas de doute sur le résultat. Inutile donc de perdre du temps. D'ailleurs, je ne sais même pas si je serai candidat. Voilà, c'est novembre 1904. Et par comparaison, quand on lit des choses sur Camille Julian, on se rend compte que Camille Julian, lui, fait campagne depuis 15 ans au Collège de France. J'ai retrouvé des lettres où il parle à Paris de son désir de Collège de France et dit que dès qu'il est rentré à Normale Sup, il s'est donné comme objectif d'aller au Collège de France. Et ça fait 15 ans qu'il écrit, qu'il entretient des liens avec les membres du Collège de France et il est soutenu pendant l'Assemblée du Collège de France, par, on va le voir tout à l'heure, par Bréal, Cagna, Boissier, qui sont des vieux, qui sont au Collège de France depuis 87, hein, quelquefois même avant. Et il est soutenu par un réseau très important et un réseau qu'on pourrait qualifier de mur, donc qui a une grande efficacité. C'est pour ça qu'il obtient un vote très favorable, 19 contre 11. À l'inverse, donc, à la Sorbonne, donc là, c'est les noms des membres de l'Assemblée, il se trouve que Durkheim connaît énormément de monde. Là, on sent que c'est vraiment un réseau qui lui est familier. Il connaît absolument tous les philosophes. Parfois, Boutroux, donc depuis très longtemps, puisque c'était son prof à Normale Sup. Il connaît aussi les géographes. Vidal de la Blache, c'était son prof à Normale Sup. Donc, il y a aussi le réseau de normaliens, de lettrés, qui avantage énormément Durkheim. Et tous ces gens s'entreconnaissent. Et sans doute entretiennent une bonne réputation pour Durkheim. Et alors, il y a aussi des gens qui ne sont pas à l'Assemblée, mais qui ont joué un rôle essentiel. Enfin, ce n'est pas des gens, c'est une personne, c'est Lucien Lévy-Brulle, qui était le directeur d'études des philosophes et qui n'était pas titulaire, mais qui va le devenir très peu de temps après, et à qui Durkheim écrit le lendemain de son élection, le 25 juin 1902, « Mon cher ami, voilà donc qui est fait. C'est vous qu'il faut féliciter, car c'est votre œuvre. Jamais sans vous, je n'aurais pensé à la combinaison qui vient de réussir, et jamais sans vous, elle n'eût réussi. » Vous voyez, il faut quelquefois regarder au-delà aussi des membres de l'Assemblée, puisqu'il y a des choses qui se font dans les coulisses. Voilà, et ce qui ne s'est pas du tout fait pour le Collège de France. Alors, je terminerai sur le troisième élément d'explication que j'appelle politique et idéologique, qui est là encore un élément très important qui va jouer en sa défaveur au Collège de France et largement en sa faveur à la Sorbonne. C'est tout simplement l'appartenance au réseau Dreyfusard ou anti-Dreyfusard. Alors, en fait, au Collège de France, c'est un petit peu difficile de le savoir. Là, j'ai mis en vert ceux qui ont sans doute voté pour Durkheim. Donc, j'en ai trouvé 11, en forçant un peu et peut-être en me trompant parfois. Il se trouve que... ce n'est pas le réseau Dreyfusard qui peut jouer en sa faveur, à part quelques exceptions avec AV... Et puis Lévy est Meilleur, donc j'ai lu des choses sur Meilleur qui est, paraît-il, qui a joué un rôle très important pendant l'affaire Dreyfus, puisque spécialiste des vieilles écritures, c'est lui qui le premier a mis un doute sur l'écriture de Dreyfus. Donc il a utilisé sa science pour cette affaire. Mais à part ce groupe-là qui a été Dreyfusard, les soutiens de Durkheim, qui sont relativement peu nombreux, sont plutôt des soutiens de philosophes et de jeunes élus. Et ce qui se joue, et j'ai fini par comprendre à force de creuser le sujet, ce qui se joue, c'est que derrière la candidature de Julian et d'une chaire d'antiquité nationale, c'est le mot « national » qui est très important, avec cet aspect nationaliste, et anti-Dreyfusard qui y a derrière, puisque Camille Julian, comme vous le savez peut-être, a énormément déçu Durkheim quand il était à Bordeaux, ne prenant pas du tout position pour Dreyfus, c'est un euphémisme, et ils ont quasiment rompu en fait à cette époque, alors que c'était des amis de Normale Sup. Et donc voilà, j'ai trouvé une lettre aussi qui confirme un peu cette thèse, une lettre à Mauss encore, 7 novembre 1999, qui est allusive. Il lui dit « L'attitude la moins explicable est celle de Bréal, donc un soutien, c'est un soutien de Julian, faisant du nationalisme en compagnie de Boissier au profit de Julian sur le compte duquel Stapfer et moi l'avions éclairé. » Stapfer qui était l'ancien doyen et Dreyfusard de Bordeaux. Donc voilà, il sent bien que se joue quelque chose de très nationaliste contre lequel il ne peut rien, y compris au Collège de France. Là, on est en pleine affaire Dreyfus. Alors à la Sorbonne, c'est totalement différent. À la Sorbonne, quand on regarde le dictionnaire biographique et des professeurs de Christophe Charles, des professeurs de la Sorbonne, et qui a eu la bonne idée de noter à chaque fois s'ils étaient plutôt Dreyfusard, anti-Dreyfusard, etc., on se rend compte que le réseau Dreyfusard est très très puissant à la Sorbonne, à la faculté de lettres. Ce sont quasiment, enfin pas tous, mais... Ce sont pour de nombreux cas des Dreyfusards très militants. Buisson le premier, puisque ce sera le futur président de la Ligue des droits de l'homme. Ce sont donc des connaissances parallèles et politiques. Voilà, donc je resterai là. Donc en conclusion, je voudrais aborder cinq petits aspects pour résumer un petit peu. D'abord, la question des disciplines. En préparant cette conférence depuis quelques semaines, je m'attendais à des choses que je n'ai pas retrouvées. Notamment, je pensais que Durkheim avait des problèmes, quand on lit le livre de Giovanni Paoletti qui va parler, on apprend que le rapport de Durkheim à la philosophie est complexe, et je m'attendais à voir des adversaires en philosophie. En fait, il s'avère qu'au Collège de France, il est soutenu par les philosophes, les deux seuls, et puis il a absolument le soutien intégral de tous les philosophes de la Sorbonne. Donc, mauvaise piste. Je pense que au niveau du conflit disciplinaire, il faut plutôt aller voir du côté de la littérature. Contre Durkheim a souvent eu des mots difficiles et durs en disant qu'elle s'opposait à la science, et il a eu aussi des problèmes avec les historiens. Et ça, je pense qu'il l'a payé assez cher. C'est bizarre, parce que lui, comme Julian, étaient des étudiants de Fustel de Coulanges, et ils ont été très marqués l'un et l'autre par ce professeur exceptionnel. Anormal sup. Alors donc ça, c'est sur la question disciplinaire, une surprise. Et sur la question des réseaux, très très vite, il s'avère que le réseau de Durkheim est un réseau, au Collège de France en tout cas, quantitativement très faible et qualitativement très jeune. En fait, les soutiens de Durkheim sont des gens qui viennent d'être élus au Collège de France, donc ce sont des gens qui n'ont pas beaucoup d'influence encore. Alors que Julian a des soutiens très anciens, puisque alors, j'ai appris dans un livre passionnant sur la jeunesse de Julian, écrit par Motte, que Julian avait postulé à 28 ans au Collège de France, en 87, et qu'il avait échoué face à ceux qui l'ont soutenu, cette fois-ci en 1904 et 1905, pour réparer en quelque sorte leur faute, entre guillemets. Ensuite, je voudrais terminer sur cette idée que les circonstances jouent toujours un rôle essentiel. Il y a des circonstances qui sont favorables ou défavorables. Alors là, favorable, c'est bien sûr l'élection à la députation de Buisson pour la Sorbonne, grande opportunité pour Durkheim. Et défavorable, par exemple, la configuration de d'Isoulet, qui est une nomination politique, ou en 99, Tarde qui se présente, et Bergson en même temps, deux chaires de philosophie qui se libèrent d'un coup, Durkheim qui n'est pas du tout préparé. Donc voilà, ça c'est des mauvaises circonstances. Affaire de personnalité aussi, comme vous l'avez vu, Durkheim n'est pas quelqu'un qui veut faire campagne, c'est quelqu'un qui veut que son œuvre parle pour lui. Et il veut qu'on fasse campagne, en quelque sorte, pour lui. Donc ça marche très bien à la Sorbonne, ça ne marche pas du tout au Collège de France. Et dernière idée, sur cette idée que la sociologie est une science extrêmement politique, on le voit à chaque fois. On le voit parce que Isoulet a été nommé par un ministre contre les socialistes, d'après Christophe Charles. On le voit parce que la chaire d'Antiquité nationale est une chaire très politique, un peu comme sous Sarkozy, on a voulu créer une histoire nationale de France, un peu cette même idée, cette idée nationaliste. Et à la Sorbonne, il ne faut pas l'oublier non plus, la pédagogie est une science très politique qui a été introduite par les Républicains Henri Marion en 83, Henri Marion en 83. Reprise par Buisson en 95, qui était un homme politique, et reprise par Durkheim en 1902. Voilà, j'ai à peu près tenu, je pense, le temps, et pour des approfondissements, parce que je suis loin d'avoir tout dit, mais j'attends vos questions.